place publique.
Une grève des femmes et après, à 10 jours de la mobilisation nationale, place publique questionne l'utilité et l'avenir de ce mouvement de colère. Nous verrons comment les grévistes comptent s'y prendre pour éviter que leurs revendications ne tombent dans l'oubli. Le radon nuit dangereusement à la qualité de l'air que nous respirons chez nous, à la maison, en classe, au bureau. Pour mieux prévenir les risques liés à ce gaz naturel mais radioactif, particulièrement répandu dans l'arc jurassien, un nouveau site web vient de voir le jour. Enfin, nous tenterons de comprendre les ressorts psychologiques des fameuses remontadas. Dernier exemple en date, l'exploit de Neuchâtel Xamax FCS face à Haro dimanche dernier. Bien sûr, un exploit que nous avons tous encore en mémoire. Des remontées au score qui sont toujours plus fréquentes dans les matchs de football décisifs.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Dans moins de 10 jours, les femmes du pays sont appelées à faire la grève. Le vendredi 14 juin, elles seront des centaines de milliers à faire entendre leur colère. La colère de ne pas être traitée à l'égal des hommes, la colère de ne pas être respectée. La mobilisation qui s'accompagne d'un catalogue de revendications allant de l'égalité salariale à la fin des violences sexistes en passant par les congés parentaux et la gratuité de l'avortement. Mais dans quelle mesure cette grève va permettre de changer les choses ? Quelles actions doivent suivre pour que ce cri ne tombe pas dans l'oubli? On en parle avec nos deux premières invitées. Anne Sédou-Christ, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère aux étapes et décès jurassiennes. Et Anne-Valérie Zoubert également avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif Biennois pour l'organisation de la grève des femmes. Un mot de vous, Anne-Valérie Zoubert, sur la mobilisation donc prévue dans moins de 10 jours, le 14 juin. Quelles sont vos attentes pour que ce soit une réussite? Est-ce que vous avez des attentes, par exemple, quantitatives, sachant qu'en 91, ils étaient 500 000 dans la rue?
Alors, je pense que ce serait évidemment très chouette si le chiffre de 500 000 pourrait être dépassé. Après, je pense que, de toute manière, en fait... Il va y avoir des actions dans toutes les villes, dans les facultés, des écoles. Donc de toute façon, ça va être un mouvement qui sera visible et je pense que déjà ça, c'est très positif.
Et une pensée aussi pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas être présentes, hein, faute de pouvoir se libérer de leur travail, de pouvoir trouver une solution pour garder leurs enfants, qui n'ont pas de moyens financiers pour prendre congé ou bien qui ont des métiers où des vies humaines sont en jeu.
Oui, exactement. En fait, il ne s'agit pas non plus de culpabiliser les femmes qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Au contraire, en fait, on propose aussi des solutions à ces femmes, ou en tout cas, on suggère des choses à ces femmes qui peuvent porter des badges ou marquer leur solidarité de diverses manières. Et puis, il y a aussi dans différents endroits, dont Bienne, des garderies qui ont été organisées pour des enfants. Donc, souvent... gérés par des hommes solidaires pour que les femmes puissent profiter du programme de la grève tout en ayant leurs enfants gardés. Donc il y a différentes choses qui sont mises en place, mais évidemment, une partie des grévistes sont aussi là en solidarité pour les femmes qui ne peuvent pas faire grève, et ça, on en a conscience.
Anne Sédou-Christ, vous êtes en session du Parlement encore la semaine prochaine, vous allez malgré tout participer d'une quelconque manière à ce mouvement?
Alors, je vais pouvoir participer totalement à ce mouvement puisque le Conseil des États n'aura finalement pas de séance plénière le vendredi 14 juin en raison d'un projet de loi qui n'a pas suffisamment avancé et qui nous permet de boucher des trous dans le programme à des jours précédents.
Alors, on vous verra dans la rue.
Oui.
Et qu'est-ce qui, selon vous, fera, même question que je vous pose à vous, qu'est-ce qui fera que cette journée, selon vous, sera une réussite?
Et comme a dit Madame Zoubert, je crois que d'une part, la mobilisation de femmes et d'hommes qui sont sensibles à cette problématique devrait se voir dans la rue de différentes manières. Ce n'est pas juste des manifestations publiques, des cortèges qui seront parlants. Ce sera aussi toutes les autres actions qui sont préparées par les collectifs qui sont au travail depuis plusieurs mois. Et je pense que ça a un côté très sympathique. C'est pas juste une manifestation, c'est aussi sur toute une journée des actions à différents endroits en fonction de la manière dont les personnes en charge et qui se sont impliquées voient cette journée.
Et ce sont surtout des revendications, Anne-Valérie Zuber, il y en a une quinzaine dans l'appel à cette grève. En tête de liste, bien sûr, l'égalité salariale, il y a aussi le congé parental, la reconnaissance du travail domestique, ou encore la fin des discriminations, des violences sexistes. À vos yeux, c'est quoi les mesures les plus urgentes ?
Alors, je pense que beaucoup d'entre elles sont codépendantes, donc c'est difficile de faire un choix. Et chaque femme trouve des mesures qui la touchent plus directement. Après, je pense que la répartition du travail, notamment le travail domestique, c'est vraiment une question qui est... Enfin, le travail de soins, en fait, qui va au-delà même du travail domestique pratiqué à la maison, mais vraiment des pratiques de soins qui sont beaucoup prises en charge par des femmes. C'est quelque chose qui, à partir de là, peuvent se faire pas mal de transformations, en fait.
Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous mettez en haut de la pile ?
Justement, comme je viens de dire, la répartition du travail. Et puis, pour moi, c'est aussi une question d'éducation, très clairement. J'ai même l'impression que les générations plus jeunes sont peut-être plus au courant, peut-être plus de ressources. Mais il s'agit d'éduquer les gens à plus d'égalité, à moins de préjugés liés au genre.
Anne Sédoukrist, quand on pense par exemple à l'égalité salariale, à l'avènement d'un congé paternité, on voit combien c'est difficile de trouver des majorités pour simplement veiller au respect de ces mesures ou à leur avènement. Est-ce qu'il était temps que la rue s'en empare ? Est-ce que c'était finalement le dernier recours qui était nécessaire ? Que la pression vienne de la société civile ?
Non, je pense qu'il y a différents mouvements qui ont surgi ces derniers temps avec Balance ton port, MeToo, tous ces problèmes en matière d'agression et d'harcèlement sexuel, de violences diverses faites aux femmes, d'égalité salariale non tenue, qui ont, je pense, contribué à cette forme de ras-le-bol qui fait que les gens estiment, et les femmes notamment, qu'il est le temps d'exprimer ce mécontentement dans la rue. Et je crois que ça fait objectivement une pression sur les parlementaires. Moi, je l'ai vu concrètement avec la loi sur l'égalité. Il y a eu des manifestations après le renvoi en commission, après le fait que ça, on avait l'impression que ça n'avancerait pas. Et puis, on a trouvé quand même un consensus minimal assez rapidement. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait cette pression. C'est en plus une pression plutôt sympathique, mais ferme. Et je crois que les gens, et les parlementaires notamment, doivent prendre conscience de ça. Si on ne veut pas aller vers une société où les actions seront plus dures et peut-être beaucoup moins agréables pour l'ensemble de la société. Donc oui, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est révélateur d'un mal-être, d'un malaise. Et puis,
Et d'une forme d'impuissance de la politique. Politique aussi, excusez-moi de vous interrompre.
Non, la politique, elle n'est pas impuissante, mais enfin, la politique avance à son rythme. La politique, ce n'est pas toujours elle qui avance plus vite que l'évolution sociale. Souvent, elle prend en compte l'évolution de la société pour la transcrire dans des textes législatifs. Et je crois qu'on essaye d'avancer. Par exemple, dans les structures d'accueil extra-familial, au niveau de la Confédération, on a quand même maintenant, depuis plusieurs années, voter pour des programmes de soutien, alors qu'on nous dit toujours que les structures d'accueil extra-familial relèvent des cantons et des communes. Donc, je crois qu'il y a une prise en compte. Il y a cette loi sur l'égalité qui a été modifiée. C'est bien qu'il y ait cette manifestation le 14 juin, parce que la semaine suivante, on va traiter au Conseil des États de la révision du droit de la société anonyme. Et j'espère que ça fera pression sur mes collègues pour qu'ils acceptent une sensibilisation de l'économie à la participation du sexe le moins représenté, et en général c'est les femmes, dans les directions et les conseils d'administration. Donc On voit aussi que le Conseil fédéral est arrivé maintenant avec des mesures pour améliorer le soutien aux familles, par exemple avec le maintien du salaire pour les absences de courte durée, un congé indemnisé de 14 semaines pour la prise en charge d'un enfant gravement malade ou victime d'un accident, l'extension des bonifications pour tâches d'assistance dans l'AVS aux concubins et aux cas d'impotence légère. Donc ces différentes mesures qui devront encore passer là, en l'occurrence devant le Parlement. Mais je pense que le fait qu'on souhaite que les femmes puissent participer plus activement à la vie professionnelle, va permettre d'adopter ces mesures plus facilement.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on poursuit notre discussion sur la grève des femmes qui a lieu dans moins de 10 jours, le vendredi 14 juin. Comment s'assurer, Anne-Valérie Zoubert, vous qui êtes membre de la coordination de cette grève pour Bienne, comment s'assurer que vos revendications ne restent pas lettre morte à l'issue de cette journée? Qu'est-ce qui va se passer dès le 15 juin, par exemple?
Alors, je pense qu'il y a différentes solutions, parfois locales, qui vont être... apporter. Nous, en tout cas, à Bienne, on a un cahier de revendications qui va être remis au maire, où on a veillé à ce que... En fait, on s'est inspiré de l'appel national et on a regardé quelles sont les compétences en fait de la ville de Bienne pour formuler des revendications concrètes pour la ville. Et on est en train de réfléchir à comment continuer à faire pression pour... le suivi de ces revendications et qu'il y ait des mises en place concrètes pour ces revendications, pour la mise en œuvre de solutions.
Est-ce qu'on peut comparer ce mouvement à ce qu'il se passe pour la grève, pour le climat? Est-ce qu'on peut s'imaginer que plus régulièrement que jamais, il y ait des manifestations, des mobilisations, et pas tous les 30 ans?
Alors, ça, c'est difficile à dire maintenant. Moi, je pense... clairement qu'il y a une convergence entre ces luttes. Les deux mouvements en fait réclament d'autres manières d'organiser la société. Et en plus, autour de la mobilisation de cette grève, il y a eu des réseaux qui se sont créés entre les villes, entre les collectifs. Donc on verra après le 14 juin comment est-ce qu'on va débriefer la situation, comment est-ce que le mouvement va être poursuivi, mais je pense qu'il y a une possibilité, en tout cas.
Anne Sedoukris, est-ce que vous pensez que les manifestantes, les femmes, ont intérêt à mettre davantage de pression? Vous avez décrit à plusieurs reprises tout à l'heure un mouvement comme étant un mouvement encore sympathique, mais qui pourrait se durcir si l'appel n'est pas entendu. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation doit s'intensifier et régulièrement occuper la rue?
Je pense que les femmes doivent faire valoir leurs revendications régulièrement. Je crois que, comme l'a dit Madame Zoubert, il y a une question d'éducation et de sensibilisation dans les familles dès l'enfance par rapport au partage des tâches et à la manière dont on gère le ménage familial. Après, il y a différents projets qui sont déjà au Parlement, si on pense au congé paternité, si on pense au droit de la société anonyme ou à d'autres projets en matière de proches aidants qu'on aimerait voir adopter. Donc là aussi, je pense que écrire aux parlementaires, demander à les rencontrer, amener aussi au niveau des communes et des cantons des demandes qui soient réalistes et puis aussi à un moment donné qui soient payables, parce que ça...
Et du coup, les élections fédérales arrivent à un point donné.
On peut faire toutes les listes qu'on veut, mais il faut à un moment donné trouver des majorités. Et il y a les élections fédérales qui arrivent, et puis ce sera aussi aux électeurs de poser des questions aux candidates et aux candidats pour savoir s'ils sont sensibles à ces questions, comme à celles du climat ou à de la santé ou à d'autres questions. Donc je pense que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur, parce que je pense que les femmes n'acceptent plus, alors qu'elles ont des bons niveaux de formation, qu'elles sont très nombreuses, d'être reléguée en catégorie de citoyenne de seconde zone.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Anne Sedoukrist, merci Anne-Valérie Zoubert d'avoir accepté de discuter de cette grève des femmes qui a lieu le 14 juin. et à laquelle vous allez participer toutes les deux. On vous souhaite évidemment une belle journée de mobilisation, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui y participeront d'une manière ou d'une autre. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place publique.
C'est un gaz naturel mais perfide car indolore et radioactif. Le radon s'introduit dans nos maisons et représente la deuxième cause de cancer du poumon en Suisse après le tabagisme. Et la situation est particulièrement sensible dans l'arc jurassien en raison de la géologie de la région. Un nouveau site internet intitulé jurad-bat.net propose depuis hier de mieux informer le grand public, mais aussi les professionnels de la construction ou encore les collectivités, et ce afin d'améliorer la qualité de l'air de nos intérieurs et donc de limiter les risques pour la santé. On en parle avec vous, Joëlle Goyette-Pernaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée radon de l'Office fédéral de la santé publique pour la Suisse romande. Vous enseignez aussi à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Vous êtes à l'origine de cette plateforme. Vous êtes en tout cas responsable du projet. On le rappelle, l'arc jurassien, c'est une région particulièrement à risque, surtout à cause de sa géologie et bien moins à cause de l'activité horlogère, par exemple.
Alors disons que selon l'endroit où l'on se trouve, il faut prendre en considération les deux facteurs, mais effectivement l'arc jurassien en tant que tel présente des caractéristiques géologiques très particulières. On est sur un massif calcaire, sur un massif qui est karstique. A priori, le calcaire contient moins d'uranium-238 qui est à l'origine du radon qu'un granit, par exemple. Mais des études récentes qui ont été menées par des partenaires français, des partenaires de l'IRSN dans le cadre du projet Juradbat, ont pu nous amener à comprendre que, a priori, finalement, la raison pour laquelle le karst de l'arc jurassien serait particulièrement riche en radon, c'est qu'avec le temps, la dissolution des carbonates, donc du calcaire lui-même, entraînerait une surconcentration de ces radionucléides qui sont donc émetteurs de radon. Et ces radionucléides se fixeraient avec le temps dans les strates supérieures du sol et donc alimenteraient justement cette source en radon naturelle, donc géogénique, dans la région.
Alors il y a des recherches récentes, vous venez de nous en indiquer une, mais la problématique n'est pas nouvelle. Hein. Les cantons, les villes ont mis en place des mesures pour mesurer et prévenir les risques, avec notamment des responsables qui ont été nommés dans chaque canton, des informations disponibles en ligne. Pourquoi c'était nécessaire de lancer cette plateforme web avec de nouveaux outils?
Alors, effectivement, en Suisse, à la différence de nos partenaires voisins français, la réglementation par rapport au radon existe depuis les années 90. C'est l'Office fédéral de la santé publique, avec sa division de la radioprotection, qui est à l'origine de la gestion de cette problématique, et donc qui a mis en place en fait les différentes structures qui permettent d'assurer un suivi au niveau des cantons de ce qu'il se passe. Parce que, actuellement, en Suisse, nous avons un plan d'action national radon 2012-2020, donc qui arrive à la fin. Et dans ce plan d'action, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient à mener, dont la révision du cadre légal.
Y compris ce site internet. Hein. Ça faisait partie des mesures.
Et donc, ce site internet fait partie de... Il n'était pas clairement dit dans ces mesures qu'il fallait développer ce site internet, mais développer des outils d'aide à la communication, à la formation des professionnels. Donc, ça fait partie aussi dans une démarche d'amélioration de la connaissance. Cet outil, finalement, il est le résultat d'une recherche qui a duré 3 ans en collaboration avec la Franche-Comté.
Parce que le phénomène du radon, hein, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière.
Il n'a pas de frontière, non, c'est ça. Il n'y a pas ni de frontière cantonale, ni de frontière nationale.
Et donc c'était intéressant d'avoir une plateforme qui permet de partager les informations d'un côté et de l'autre de la frontière.
Oui, alors en fait, c'est intéressant et c'est extrêmement riche. C'est un travail qui nous a porté pendant maintenant un peu plus de 3 ans, au cours duquel justement nous avons pu mettre en perspective les compétences des deux pays, les approches différentes aussi, et l'idée c'était justement de s'apporter mutuellement ce qui manquait chez l'autre. Donc côté français par exemple, la réglementation est plutôt orientée vers le bâtiment public, donc il y a encore peu d'études qui ont été menées dans l'habitat. Or la région du pays Montbéliard agglomération typiquement est une région qui présente les mêmes caractéristiques du point de vue du radon que la Suisse. Donc ce projet a été l'occasion de mener des campagnes de mesures pour densifier un peu les mesures de ce côté-là. Côté Suisse, on est plus avancé sur les campagnes de mesures puisque l'OFSP et les cantons ont déjà élaboré il y a quelques années en arrière le cadastre du radon. Donc on a déjà une bonne connaissance de ce qui se passe dans l'habitat, dans le bâtiment en général. On est assez, je pense, assez précurseur en termes de techniques à mettre en œuvre dans le bâtiment pour remédier au problème ou pour l'éviter.
Bah, c'est ça un des enjeux de votre site, hein. C'est cette histoire de rénovation des bâtiments. Vous adressez une quantité d'informations et vous appelez les professionnels de la construction à s'emparer de la question, car quand on rénove des bâtiments, parfois on crée plus de problèmes qu'on en résout au niveau du radon.
Oui, aujourd'hui, la rénovation, en particulier la rénovation énergétique, semble apparaître comme étant problématique sur, je dirais, la qualité de l'air intérieur en général. On note une augmentation de la détérioration de cette qualité de l'air liée, en fait, aux mesures que l'on met en œuvre dans le bâtiment sans prendre nécessairement en considération en amont du projet de rénovation de la situation par rapport au radon et en prenant compte également de la manière dont les personnes vont vivre dans ce bâtiment qui aura changé en termes de dimension physique, finalement.
On isole les maisons, elles respirent moins bien, c'est ça? C'est comme ça qu'on pourrait résumer la chose?
On pourrait résumer un petit peu la chose de la manière suivante. Effectivement, dans le cas où, dans cette rénovation, on ne prend pas en compte le renouvellement d'air. Et c'est le point vraiment crucial. Il faut penser que le bâtiment a besoin de respirer. Il faut pouvoir renouveler l'air, que ce soit de manière naturelle ou mécanique. C'est un problème qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps dès à présent.
Et il ne suffit pas d'aérer, hein, parce qu'on a l'impression que si on ouvre les fenêtres régulièrement, c'est réglé. Or, c'est bien plus insidieux que cela.
Oui. Il ne suffit pas d'aérer. Disons que l'aération, elle est bonne et il faut encourager à l'aération. C'est une mesure usuelle à prendre dans le bâtiment chez tout un chacun. Mais par exemple, si on a vraiment un problème lié au radon chez soi, la simple aération ne sera pas suffisante. Ce sera une mesure d'urgence que l'on pourra mettre en œuvre le temps d'entrer en matière sur des travaux plus conséquents. Mais on ne peut pas se fier sur la simple aération pour améliorer la qualité de l'air intérieur quand il y a un problème avéré.
La question que tout le monde se pose, locataire comme propriétaire, c'est: est-ce que ma maison est concernée? Est-ce que je respire un air vicié, toxique? Dans quelle mesure votre site va nous permettre de mieux répondre à cette question?
Oui, alors déjà ce site, il a effectivement une vocation de sensibilisation, information, formation à grande échelle. On a décidé de toucher trois public cible, hein, le grand public, les professionnels, les collectivités, en apportant à chaque fois des éléments d'information de degrés divers. Chaque public peut aller se promener dans le menu de chacun des autres publics, ça, il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Mais disons que, par exemple, le grand public pourra accéder très directement à des informations sur la mesure, auprès de qui puis-je m'adresser pour faire une mesure de radon chez moi, ou une mesure de la qualité de l'air intérieur. Et si j'ai telle valeur de radon chez moi, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les types de travaux que je peux entreprendre? Nous avons élaboré à cet effet un guide d'auto-évaluation du bâtiment qui permet au propriétaire de se promener dans son bâtiment, d'identifier les zones de faiblesse du bâtiment, de lui proposer des solutions possibles pour améliorer la situation. Avec ces solutions en main, il peut ensuite soit entreprendre lui-même les travaux, soit approcher un entrepreneur ou des entrepreneurs qui vont réaliser ces travaux. Mais à ce moment-là, il a les éléments pour discuter de cette problématique avec l'entrepreneur. De la même manière, l'entreprise qui va faire ses travaux et qui ne connaît pas bien le sujet peut aller dans l'onglet grand professionnel. Il va aller récupérer un certain nombre de documents plus techniques, des fiches techniques sur différents éléments, notamment les systèmes de ventilation, des fiches techniques ou des détails de mise en œuvre de solutions contre le radon. On a essayé d'aller le plus près possible du langage de la personne qui construit, de manière à ce que chacun puisse trouver
au niveau, enfin,
au,
à son niveau, selon ses compétences.
À son niveau, voilà, les informations dont il a besoin pour avancer et surtout traiter le problème de la meilleure façon qu'il soit.
Merci beaucoup, Joël Goyette-Pernaud, de nous avoir fait visiter un peu ce site qu'on invite, bah, bien sûr, on invite tout le monde, tout un chacun à le visiter. C'est jurade-bat.net et le lien se trouve disponible tout à l'heure sur nos sites internet rjbrtnrfj.ch. Merci beaucoup, Joëlle Goyette-Pernaud, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie, bonne soirée.
Au revoir.
Place publique.
C'est difficile de trouver les manches. Tout le monde nous avait enterrés. On a eu 2-3 jours pour sortir du trou, essayer de faire le point, se rendre compte que au final, même si voilà, on passe à travers une mi-temps ou un match complet, on méritait probablement pas de quitter la première division suisse de cette manière. Si on devait la quitter, c'était contre plus fort ou sans injustice. Voilà, je suis content pour nous, je suis content pour tout le monde. C'est un truc de fou, c'est difficile à expliquer.
L'émotion du capitaine de Neuchâtel, Xamax FCS, Laurent Walter, le gardien, au micro de Marcel Neuenschwander, à l'issue d'une victoire aussi précieuse que spectaculaire contre Aro, une remontada qui s'est déroulée donc dimanche dernier au stade du Brugliefeld, dont le rappel, Neuchâtel Xamax, qui est parvenu à sauver sa place en Super League de football en marquant 4 buts et en remportant une séance des tirs au but, et un exploit puisque les Rouges et Noirs avaient subi 3 jours plus tôt précisément l'humiliation à la Maladière en perdant 4-0 devant leur public. Alors comment expliquer un tel retournement de situation? Quel est le secret de ces fameuses remontadas qui défrayent de plus en plus la chronique ces dernières années? Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Ophélia Disley-Jeanneret. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences du sport, vous êtes spécialisée en psychologie sociale et cognitive. Vous avez aussi bien préparé des athlètes pro en patinage, en hockey sur glace ou en volleyball dans le canton de Châtel. Et vous êtes aussi chef du service des sports de la ville d'Yverdon. Alors, en entendant cet extrait de Laurent Walter, quasi en larmes, on mesure le niveau de tension émotionnelle. Est-ce qu'on peut dire que, pour l'emporter dans de pareilles circonstances, l'essentiel se joue dans le mental?
C'est en tout cas une grande partie, puisque finalement, les athlètes, à un moment donné, comme ça, ils sont prêts, ils sont physiquement prêts. Donc pour basculer en fait d'une défaite à une victoire, c'est principalement effectivement des éléments de psychologie du sport, de préparation mentale qui se jouent, et puis une espèce de sincérité d'action qu'on entend en fait dans les propos de Laurent Walter. On voit toute l'émotion qu'on ressort, toute la sincérité du moment.
Donc il faut être sincère. Laurent Walter qui évoque le match aller et le sentiment d'injustice que l'équipe a ressenti, d'où une forme de rage de vaincre qui est perceptible au match retour. Est-ce qu'une forme d'orgueil blessé est nécessaire pour mobiliser cette sincérité, ces bonnes forces?
Il faut surtout une forme d'humilité quelque part. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans des situations autant délicates que ça, avec une défaite 4-0 à la maison, finalement, c'est des bons moments pour revenir aux vraies valeurs. C'est-à-dire qu'on revient aux vraies forces de chacun. Et ça, on sait dans les notions de climat motivationnel. C'est-à-dire que si l'entraîneur, le staff, les joueurs, le capitaine sont capables d'aller mobiliser en fait ces forces naturelles de chaque individu, eh bien, on tombe dans ce qu'on peut appeler une forme de sincérité d'action, mais c'est-à-dire que l'individu va chercher finalement à donner le meilleur de lui-même. Et puis, pour la question d'orgueil, c'est assez différent si on analyse du point de vue de la psychologie sociale. Ça dépend d'un individu à l'autre. Est-ce que vous avez des individus qui sont en état d'esprit fixe, où finalement la notion d'orgueil est très difficile à gérer, puisque ça peut être vécu comme un moment d'humiliation ultime où finalement c'est pas si facile de se dire ben finalement j'ai envie de travailler, d'aller de l'avant, de travailler sur le processus. L'humiliation, l'orgueil peut être vu d'un point de vue compétitif extrêmement blessant. Et puis on a l'autre cas de figure, on a des joueurs qui sont en état d'esprit de développement pour lesquels c'est beaucoup plus facile en fait de se dire ben finalement j'apprends de cette événement quand même relativement difficile autant d'un point de vue sportif que émotionnel pour me dire ben je suis dans un processus de progression. Je travaille, je vais de l'avant, j'apprends de cette situation et puis finalement, le processus induit le résultat presque de manière naturelle après.
Je vous propose d'écouter d'autres réactions de joueurs, en l'occurrence Serretti et Max Veloso.
C'est la première fois de toute ma carrière qu'il m'arrive un truc pareil. J'ai gagné des titres, j'ai gagné pas mal de derby, mais celui-ci être mené 4-0, remonter et passer l'épaule. Je suis vraiment fier de mes coéquipiers.
On a prouvé aujourd'hui que l'équipe avait du cœur. Je l'avais dit aux médias il y a quelques jours. Il faudra peut-être un brin de folie, mais il faut y croire. Il faudra donner tout ce qu'on a à nos tripes. D'ailleurs, Pietro a vomi un peu sur le terrain, donc au sens propre comme au sens figuré. Et on a tout donné. On a tout donné. On avait un plan très précis. On l'a suivi et on a mis du cœur. Je suis tellement fier de mes coéquipiers, tellement fier de cette équipe, de ce club. C'est juste incroyable.
Des propos recueillis par Nicolas Bandelier, Ophélia Disley-Jeanneret, plusieurs leçons à tirer de ces propos. D'abord, rien ne s'improvise, hein, même dans de telles circonstances qui sont rares, Serredi nous le dit. L'équipe, on vient de l'entendre, s'est conformée à un plan très précis. Il y a la stratégie du jeu du coach, mais on imagine aussi une grande place à la préparation mentale.
C'est tout ce qu'on retrouve finalement dans les ce qu'on retrouve dans les techniques de leadership en fait. Donc les techniques de leadership permettent d'aller sur plusieurs axes. Et puis un des premiers, c'est effectivement de fixer des objectifs. Donc ça, c'est un petit peu les choses courantes. On a envie de passer étape 1, étape 2, étape 3, et puis globalement d'atteindre ces objectifs fixés.
Mais mentalement, ces objectifs, on doit se les représenter, on doit quasi les avoir joués à l'avance, c'est ça?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est toute la notion liée à la préparation mentale qui induit d'autres formes de leadership aussi, qui sont directement corrélées, puisque finalement, on a l'atteinte des objectifs qui doit être lié à une notion de vision, de donner du sens, de donner une identité. On le voit dans les propos des joueurs, ils parlent à la fois de collectif, et puis ils parlent aussi de notions aussi plus liées à des métaphores, hein, d'aller donner ses tripes. On est sur des notions presque de leadership charismatique pour aller le chercher, et puis on a l'aspect aussi lié au fait de s'appuyer sur l'expertise aussi. On a des joueurs expérimentés qui, et c'est toute cette alchimie là qui va former une forme de leadership aussi, tant du point de vue du capitaine, que du point de vue de l'entraîneur, que du point de vue de certains joueurs, ça peut être de manière informelle.
Des joueurs qui ont l'impression parfois de ne pas y croire. Ils viennent de signer cet exploit, ils n'en croient même pas leurs yeux. Ils ont, comme si cette préparation, aussi efficace qu'elle a été, n'était pas suffisante pour leur faire réaliser la hauteur de ce qu'ils ont réussi.
Les émotions sont tellement intenses que finalement, même physiologiquement parlant, c'est des moments assez rares dans une vie, de vivre des moments comme ça, assez exceptionnels. Donc, il y a toute cette part, et c'est ça qui fait la beauté du sport, quelque part, qui est... vous pouvez être physiquement extrêmement bien préparé, mentalement extrêmement bien préparé, et puis il y a le vécu du moment, la joie du moment qui fait que c'est encore une autre stratosphère, et puis c'est juste fantastique qu'ils aient pu vivre cela, et nous avec eux, évidemment.
Dernière question, ces remontadas, il y en a plusieurs depuis une fameuse victoire de Barcelone contre Paris. Est-ce que c'est devenu un scénario possible qui s'est comme ça installé dans le mental des équipes, des joueurs? Comme quoi c'est possible, on peut se reprendre une rouste et puis tout de suite remonter en selle et puis renverser la situation. C'est possible de renverser la situation, de gagner. C'est aussi possible de tout perdre. Haro, on en a montré l'exemple.
Bien sûr. Alors, dans le premier cas de figure, finalement, ce qu'on voit aussi en amont, c'est tout le travail qui est fait dans des formations des entraîneurs où finalement l'aspect psychologie du sport, préparation mentale, a pris une importance toujours plus grandissante. Et puis, on a des staffs, on a des entraîneurs au sens large, mais on a aussi des joueurs qui sont capables de faire, qui sont prêts aussi c'est une prise de risque qui est... on sait qu'on peut perdre, on sait qu'on va devoir continuer, on sait qu'il y a des choses qui sont anticipées en matière de préparation mentale. Et puis, après, c'est tout le jeu du collectif où finalement, on le sait que même au niveau cérébral, il y a de l'énergie positive qui peut circuler comme de l'énergie négative. Et puis, finalement, les grands dangers de l'énergie négative, dans le cas inverse pour Haro, c'est peut-être de finalement perdre la confiance au fur et à mesure entre coéquipiers. Et on sait que ça, c'est des choses... Il y a des énergies qui passent qui, finalement, sont bien plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer et puis qui se jouent, finalement, sur des petites bifurcations dans les matchs qui peuvent faire changer tout à fait le scénario.
En tout cas, c'est un sujet en or pour la psychologie du sport, Ophélia Disley-Jeanneret. Vous nous le prouvez en répondant à nos questions. Un exploit de Xamax qui fera date, hein, un exploit réalisé à l'extérieur, il faut encore le souligner. Ophélia Disley-Jeanneret, vous êtes docteur en sciences du sport, spécialisée en psychologie sociale et cognitive. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Place Publique.
Merci beaucoup.
Place Publique.